Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Si vous en êtes d'accord, nous allons reprendre nos travaux et revenir chronologiquement en arrière par rapport à hier après-midi, puisque nous allons parler nous allons revenir au Moyen Âge. Je ne sais pas si on dit bas Moyen Âge, c'est presque une insulte, non? Comment faut-il dire? Ça se dit encore. Bon. Pour d'une part la guerre. Alors vous avez changé de titre, la guerre civile dans le royaume de France au XIVe et XVe siècle.
L'expression, le concept, le vécu,
c'est le nouveau titre. Philippe Contamine a quelques problèmes de vision en ce moment, passagers, en tout cas nous le souhaitons. Et ensuite, nous passerons en Angleterre, mais à la même époque. Alors cela s'inscrit dans ce que j'ai appelé les guerres civiles constructives, pas très heureux, enfin, comme expression. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que dans la publication des actes, je retiendrai ces diverses subdivisions, parce qu'il apparaît depuis le début que, somme toute, c'est un peu artificiel, je m'en doutais, et que, tout touche à tout, non, mais que les différentes expressions, si vous voulez, des guerres internes, à des sociétés politiques ont tout de même, il n'y a pas de frontières, si vous voulez, si j'ose dire, il n'y a pas de frontières étanches entre les différents phénomènes. Donc je verrai comment aménager tout cela. Donc trêve d'introduction, je donne tout de suite la parole à Philippe Contamine, donc que tout le monde connaît, donc c'est pas la peine de le présenter.
Vous avez la parole.
Merci, mon cher confrère. La guerre civile dans le royaume de France au XIVe et XVe siècle, l'expression, le concept, le vécu. Je me réjouis que grâce à Jean Béchler, l'occasion me soit offerte d'examiner, à partir du concept de guerre civile, les conflits qui se sont produits en France, au royaume de France, pendant la période XIVe-XVe siècle. Ma première interrogation est la suivante. Peut-on parler de guerre civile dans cet espace, l'espace français, pour la période antérieure? Exemple, les guerres de style féodal qui opposèrent Louis VI ou Louis IX avec tel de leurs vassaux, proches ou lointains, certains de ces vassaux étant par ailleurs des rois. Il semble que non. Il semble que non, bien que juridiquement, il soit possible d'en discuter. À l'inverse, tel épisode de l'histoire anglaise au temps de la lutte entre l'impératrice Mathilde et Étienne de Blois, entre Henri III et Simon de Montfort, semble plus proche de la guerre civile, ne serait-ce que parce que le royaume d'Angleterre, je parle sous contrôle, au XIIIe siècle au moins, former un ensemble politique, une communauté politique, alors que le royaume de France, à la même époque, était plutôt un rassemblement plus ou moins hétéroclite de seigneuries et de principautés à l'intérieur d'un cadre, même si ce cadre était à l'époque même reconnu et connu. J'ai eu la curiosité d'aller plus loin et je suis tombé sur un épisode bien connu des hauts médiévistes. En 840, il y a eu la mort de l'empereur Louis le Pieux, qui laissait trois fils de ses deux mariages. L'aîné, Lothaire, revendiquer la totalité de l'héritage, plus le titre impérial. Il pouvait compter, entre autres, sur l'Église carolingienne, une seule chrétienté, un seul empire. Et puis, il y avait un second, Louis, dit le germanique, qui s'opposa à cette ambition, d'où une rencontre près de Mayence qui se termina par un armistice. Lothaire se retira vers le second frère, Charles, dit le chauve, censément le maître de la France de l'Ouest, de la Francia Occidentalis. Une rencontre eut lieu, cette fois près d'Orléans, et elle se termina, là aussi, par un armistice. Et il y eut ensuite la journée entre Charles et Louis, la rencontre eut lieu, la jonction entre Charles et Louis, et la rencontre entre les trois frères eut lieu, une rencontre sanglante, à Fontenoy en Puisée, le 25 juin 841. Lothaire fut vaincu, mais les vainqueurs, par scrupule moral, ne voulurent pas exploiter leur victoire. Nous avons une série de textes qui nous parlent de cette rencontre, et en particulier le récit de Nithard, qui était présent, Nithard, petit-fils de Charlemagne, donc cousin germain des trois protagonistes, et Nithard montre bien comment est-ce que cette rencontre a été vécue, sinon comme une guerre civile, du moins comme une guerre fratricide au sein de la chrétienté, comme une guerre fratricide, comme une guerre entre chrétiens. Donc là, nous avons, si vous voulez, une esquisse de guerre civile, mais l'expression ne figure pas. Et l'événement a eu son importance. Le fait est qu'à côté de ce témoignage de Nithard, il y a un poème, les Versus de Bello qui fuit acta Fontenetto, d'un certain Angilbert, qui reprend un peu les mêmes thèmes, le thème de la lutte fratricide, le thème de la chrétienté déchirée. Entre 1300 et 1500, le royaume de France a été le théâtre de au moins trois grandes guerres, les guerres de Flandre, marquées par les batailles de Courtrai, de Mont-Saint-Pével, de Rosbecque, les grandes guerres de France et d'Angleterre, comme le dit Froissart, et puis les guerres de Bourgogne. On pourrait ajouter également les guerres de Bretagne. Dans tous ces cas, peut-on parler de guerre civile dès lors qu'à l'origine, le roi d'Angleterre, c'est le cas de la guerre qui va devenir la guerre de Cent Ans, était le vassal, le sujet du roi de France en tant que duc de Guyenne, dès lors que, pour Philippe le Bel, au début du XIVe, incontestablement, les Flamands auxquels les Français furent opposés étaient des rebelles, faisant partie théoriquement de l'espace politique français, et de même pour les guerres de Bourgogne, puisque Philippe le Bon, en dépit du traité d'Arras de 1435, n'était pas, lui et les territoires auxquels, à la tête desquels il se trouvait, n'étaient pas en dehors du royaume de France. En France, les hommes de savoir au XIVe siècle, à travers ce qu'ils connaissaient de l'histoire de Rome, Lucain, César, Justin, Florus, les fées des Romains, Valère Maxime et quelques autres, avaient une idée de ce qu'était une guerre civile. Et j'ai été à la recherche de cette expression dans les sources. Autrement dit, pour penser ce que nous appelons les guerres civiles du XIVe et XVe siècle, et surtout la guerre entre Armagnac et Bourguignon, sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants, eh bien, ils avaient, disons, deux références historiques et culturelles, la référence de l'histoire romaine et la référence des cités italiennes, Guelph et Gibelin. Et nous voyons, c'est la première occurrence que je rencontre, en 1357, après la bataille de Poitiers, à l'issue de laquelle Jean le Bon, le roi Jean le Bon, a été fait prisonnier en Angleterre, il y a eu la rédaction par un certain François de Montebelluna, qui est un, un Italien, mais qui se veut un, entre guillemets, un patriote français. Il y a eu par ce dominicain, qui est devenu ensuite bénédictin, maître en théologie, humaniste, à la manière de Pétrarque, la rédaction par ce François de Montebellina d'un traité, si vous voulez, qui s'intitule « De Miserabili Statu Regni Francier ». Et dans ce traité, il évoque effectivement la référence à la guerre civile et il déclare que les guerres qui déchirent la France à son époque, 1356-1357, eh bien, c'est en partie des guerres d'ennemis, mais également des guerres civiles. Et il déclare que justement, la faiblesse de la France vis-à-vis des ennemis, et naturellement, il pense aux Anglais, c'est le fait que elle est obligée de se battre sur deux fronts et qu'elle est affaiblie par ses divisions internes. Et l'expression « guerre civile » apparaît, et en particulier « civilia bella »,« immo plus quam civilia », »,« plus que civil ». Et là, il fait référence au début de la farsale de Lucain. C'est une référence qu'on va retrouver ultérieurement. Conclusion, notre bénédictin, repris du reste intelligemment à la fin du XIVe siècle, comme l'a montré Bernard Guenet, par Michel Pintoin, le religieux de Saint-Denis, distingue bien l'ennemi extérieur et les démons intérieurs qui rendent compte de l'état lamentable de la France. La pensée politique a connu un grand développement à l'époque de Charles V, le sage roi, entre 1360 et 1380. C'est une banalité que de le rappeler. Et effectivement, on trouve à cette époque-là une réflexion au sujet de différents types de guerres. Et en particulier, on la trouve dans la traduction par Raoul de Presles entre 1371 et 1375 de la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Et cette traduction, qui vient du reste d'être éditée, on a mis le temps, auparavant il fallait recourir aux manuscrits, cette traduction s'accompagne de commentaires. Et dans l'un des commentaires, il y a une référence aux guerres serviles, aux guerres sociales, aux guerres civiles et aux guerres plus que civiles, comme si c'était un cadre, disons, de pensée politique qui pouvait être utile pour comprendre les événements contemporains. Et là encore, il renvoie, entre autres, à Lucain et à la guerre civile, opposant moins Pompée et César, qu'il appelle guerre plus que civile, que Marius et Sylla. L'expression, je la vois dans les pages écrites par Christine de Pisan en 1410, dans un traité dont le titre est censé être le suivant, « Lamentation sur les maux de la guerre civile ». Et là encore, dans ce traité, Christine de Pisan, nous sommes à l'époque où effectivement se met en place le conflit des divisions entre Armagnac et Bourguignon, pour employer l'expression très répandue à l'époque. Eh bien, Christine de Pisan, qui a sa propre réflexion politique, mais qui sûrement, surtout, exprime la réflexion des hommes de savoir auxquels elle a pu avoir avec lesquels elle a pu entrer en contact, montre bien qu'il y a, d'une part, les guerres d'ennemis, les guerres extérieures, et d'autre part, les guerres civiles, et elle supplie le vieux duc de Berry de ne pas se lancer dans l'aventure des guerres civiles, des guerres intestines. Nicolas de Baille, greffier du Parlement de Paris, a écrit son journal, qui a été publié à la fin du XIXe siècle et à la date de 1412, il évoque l'état de la France. Il montre comment il y a, d'une part, des désordres climatiques, ça fait un ensemble, d'autre part, des épidémies, des mortalités, et en troisième lieu, batailles et divisions plus que civiles à l'occasion de la mort du duc d'Orléans, frère germain du roi Charles VI, et père de Monseigneur d'Orléans, qui à présent est. Bon, manifestement, Nicolas de Bailly connaissait Lucain, il l'avait sans doute dans sa bibliothèque, et a utilisé l'expression « guerre plus que civile » pour désigner ces divisions qui se mettent en place, surtout à partir de 1405, mais surtout à partir de 1407, à savoir à partir du meurtre sur ordre du duc de Bourgogne, Jean sans peur, de son cousin Louis, duc d'Orléans. Et ensuite, eh bien, Christine de Pizan, la même Christine de Pizan, a écrit entre 1412 et 1413, le livre est achevé le 1er janvier 1414, le livre de la paix adressé à Louis, duc de Guyenne, dauphin de France, qui était l'héritier de la couronne. Et il y a tout un développement qui figurera dans mon texte, que j'exploiterai dans mon texte écrit, six devises, le péril où a été le royaume de France à cause de la guerre civile dernièrement passée, afin de se garder de plus y retomber. Et donc il y a tout un développement qui montre comment la guerre civile, pour elle, c'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue, d'une part parce que cela permet aux ennemis, c'est-à-dire aux Anglais, d'entrer dans le royaume, et puis ensuite elle déclare que du même coup il y a une désorganisation complète de la société, et les Français qui habituellement respectent leur seigneur et leur prince sont tentés de se rebeller, et on tombe par conséquent sur des soulèvements populaires dont elle garde un souvenir tout à fait horrifié. Jean Gerson, dans le discours au roi pour la réconciliation, c'est un discours qui aurait été prononcé en novembre 1408, les malveillants du royaume de France, comme les Anglois, n'aient point doute, verraient très volontiers guerre civile entre nous et exterminer tout le bien d'une police, c'est-à-dire d'un ensemble politique. On sait bien que tous les adversaires jamais n'eussent tant grevé par longtemps leur seigneurie d'Angleterre comme font et ont fait leur civile division. Donc il y a un renvoi à l'histoire anglaise, histoire même contemporaine, à l'époque de ce qu'on peut appeler la guerre civile, je ne sais pas si c'est la guerre entre le Lancastre et les Plantagenets, qui a abouti à l'éviction et au meurtre de Richard II au profit de Henri IV. Las, las, or, défend Dieu par sa digne bonté que si cruelle plaie ne se embatte en ce royaume, car que ce roi se fera la destruction, la misère intolérable et sa désolation. Donc pour lui, il y a un maximum de danger, c'est la guerre civile. Alors, j'ai d'autres exemples ici, tirés d'Alain Chartier, tirés de Jean de Montreuil, tirés de Jean Juvénal des Ursins, tirés de Michel Pointoin, mais nous retrouvons toujours cette idée qu'il y a le concept et que d'autre part, il y a le vécu, et c'est effectivement à ce moment-là que se met en place véritablement une guerre civile au sommet, opposant les Armagnacs et les Bourguignons, avec leur programme, avec leurs alliances, avec leur emblématique, qui permet de désigner, pour ainsi dire, l'adversaire intérieur. Alors ensuite, eh bien, nous avons la période qui va, disons, de 1420 à 1435 et même au-delà, où le concept de guerre civile est toujours sous-jacent, mais en même temps, eh bien, il devient moins impératoire, dans la mesure où les Armagnacs s'identifient, sont identifiés de plus en plus avec les Français. Les Armagnacs, les Orléanistes, les Dauphinois, les Français. Et puis de l'autre côté, on a les Bourguignons. Et donc, à partir d'un certain moment, ça n'est plus, ou c'est moins, une guerre civile qu'une guerre entre deux entités territoriales, entre deux peuples, deux nations, les Français et les Bourguignons. Donc là, même si, d'un point de vue juridique, on peut en discuter, le vécu, probablement, amène à penser qu'on s'éloigne un petit peu de la guerre civile. Et le dernier exemple que je prendrai, faute de temps, c'est l'exemple de la guerre du bien public en 1465. De quoi s'agit-il? L'expression est très bien choisie, le bien public du royaume de France. Je pense que l'expression a été imposée, retenue, suggérée par le bâtard d'Orléans, le comte de Dunois, qui était sans doute le plus fin politique de la bande. Alors, Louis XI, qui a succédé à Charles VII en 1461, a eu un début tout à fait calamiteux, en tout cas jugé comme tel. Il a multiplié les erreurs, les gaffes, et les mesures qui ont mécontenté un petit peu tout le monde, le peuple, le clergé, les nobles, les princes. Et de même coup, eh bien, il y a eu une coalition qui s'est formée, et c'est la Ligue du bien public, devenue ensuite la guerre du bien public. Donc c'est une coalition qui se présente comme, disons, interne. Il ne s'agit pas d'opposer les Bretons aux Français, d'opposer les Bourguignons aux Français, il s'agit d'une coalition de grands seigneurs et de moins grands seigneurs, avec un échange d'alliances, de scellés, etc., en vue de réformer le royaume de France et en vue d'imposer à Louis XI un autre mode de gouvernement. Et donc, on voit très bien comment il ne s'agit pas d'une guerre d'invasion, puisque les coalisés, les ligueurs, si vous voulez, ont eu comme idée, même si ça ne s'est pas réalisé exactement comme cela, de lever des troupes, c'est une affaire entendue, de maintenir une certaine pression auprès du roi, de se rassembler à Paris ou près de Paris et de forcer le roi à convoquer les trois états du royaume, et donc là il y aurait une commission, etc., et on aboutirait à la réforme du royaume. Donc vous voyez que nous sommes vraiment en plein dans le concept de guerre civile, mais on peut malgré tout s'interroger. Pour Louis XI, c'est une guerre civile, ce sont des rebelles qui s'en prennent à la majesté royale. Peut-être que pour les Parisiens, c'est le même processus, mais en même temps, au sein de cette guerre civile, on voit apparaître, disons, des forces qu'on peut appeler des forces territoriales, qui sont à la fois intérieures et extérieures au royaume de France, et notamment les Bretons et les Bourguignons. Les Bourguignons, il s'agit du futur Charles le Téméraire, le comte de Charolais, qui ne pense pas peut-être en termes de réforme du royaume, mais qui pense surtout à récupérer les villes de la Somme que Louis XI avait réussi à racheter quelques années auparavant. Donc nous sommes, si vous voulez, au confluent d'une guerre civile et d'une guerre extérieure. Je pense malgré tout que si on regarde le déroulement de cette guerre du bien public, marquée par au moins une bataille assez sanglante, la bataille de Montlhéry en juillet 1465 au sud de Paris, qui a opposé les forces bourguignonnes aux forces françaises de Louis XI, on s'aperçoit quand même que ça n'est pas une guerre tout à fait extérieure, dans la mesure où les guerres extérieures, les guerres menées par les Anglais en France par exemple, étaient marquées par des dévastations souvent systématiques, et en particulier le feu. Bon, le feu. Et donc, quand on regarde ce déroulement, le déroulement concret de cette guerre de 1465, on a l'impression que les campagnes ont été plus ou moins épargnées, car il s'agissait malgré tout, d'une opération politique plutôt que d'une opération militaire, et qu'il fallait par conséquent manifester une certaine réserve. Voilà par conséquent ce que je voulais vous dire. Vous voyez que mon propos est assez cursif. Donc ma conclusion se tiendrait en quelques points. Premièrement, à l'intérieur de l'espace français, il est difficile de parler de guerre civile avant la deuxième moitié du XIVe siècle, parce que le royaume de France, avant cette période, ne constitue pas encore pleinement un corps politique. Les guerres de Flandre, sous Philippe le Bel et ses fils, opposent des Français à des Flamands, comme les guerres suivantes opposent des Anglais aux Français. Deuxièmement, le modèle de la guerre civile, c'est les Armagnacs et les Bourguignons, guerre civile et même plus que civile, parce que entre parents. Les divisions sont partout. Chaque ville a, en proportion variable, des Armagnacs et des Bourguignons. Jeanne d'Arc le dit, même à Dormé, il y avait un Bourguignon. C'est un modèle, de guerre civile, du reste les historiens l'ont compris comme cela, avec des mots d'ordre, avec des programmes, avec des alliances, avec une ou des emblématiques. Troisièmement, durant la période suivante, l'idée empruntée à l'histoire romaine et aussi à l'histoire italienne, l'idée subsiste. Mais en même temps, les Armagnacs se muant en français, on retrouve le concept de guerre civile est moins opératoire et on est en présence plutôt d'une guerre classique entre ennemis. Et puis l'exemple ambigu de la guerre du bien public, et je renvoie en particulier à l'analyse de Thomas Bazin dans son Histoire de Louis XI, qui est fort intéressante, mais je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, qui montre bien qu'il y avait une volonté de la part des ligueurs de se situer à l'intérieur du royaume de France, même si, en réalité, il y a des aspects de guerre étrangère au sein de cet épisode.
Merci pour cet exposé qui, personnellement, en tout cas, me confirme dans la conviction qui est mienne depuis combien, 50 ans à peu près, depuis mes études d'histoire, que les siècles tournants, décisifs de l'histoire européenne, dans tous les domaines, mais là en l'occurrence dans le domaine politique et militaire, sont les 14e et 15e siècles. Par ailleurs, ce sont les siècles peut-être les plus noirs, enfin avant le 20e en tout cas, de l'histoire européenne, et c'est là que tout s'est mis en place, que les évolutions ou les développements les plus décisifs ont eu lieu, et vous l'avez montré de manière parfaitement limpide, on passe de la guerre, disons classique, à la guerre civile, par des nuances successives, qui peuvent également revenir en arrière d'ailleurs. Et tout cela est parfaitement convaincant. J'aurais une question peut-être à vous poser. D'abord, deux, enfin, c'est la même probablement. Plus que civil, que veut dire plus que? Et d'autre part, civil, dans l'esprit de l'époque, de ceux que vous avez cités, c'est une guerre entre les mêmes, si je puis dire, enfin, ceux qui font partie du même ensemble, mais même sous quel chef?
Je suis d'accord avec vous, donc plus que civil, donc pour ça vient de Lucain. Ça vient de Lucain, c'est le début de la farsale. Le début de la farsale, donc je vais raconter la guerre civile, etc., et même plus que civil. Alors, disons que dans le commentaire de Raoul de Presles à sa traduction de La cité de Dieu de Saint-Augustin, il distingue, les guerres civiles qui opposent des citoyens à des guerres plus que civiles qui opposent des parents. L'idée, c'est ce sont des parents, des gens apparentés. Le père contre le fils, le frère contre le frère, voyez-vous, des choses comme celle-là. Donc il y a encore un degré de plus qui est un degré à caractère affectif. Et c'est pour ça que Là, je renvoie à Nicolas de Bailly, c'est pour ça qu'il emploie l'expression « guerre plus que civile », parce que c'est effectivement une guerre entre deux personnes très proches par le sang, à savoir le duc d'Orléans et le duc de Bourgogne. Je pense qu'il y a, disons, ça se voit très très bien lors de la confrontation entre Malherbe et Bourgogne, c'est une guerre au sein de la maison de France. Au sein du royaume de France, au sein de la maison de France. Il y a toujours cette référence à la parole de l'écriture, de Luc, n'est-ce pas ? Tout royaume divisé contre lui-même, tout royaume divisé contre lui-même périra. Hein ? Donc, si vous voulez, c'est la maison de France, c'est le royaume de France, la maison de France à la fois comme symbole et comme réalité lignagère, qui se trouve en cause, et c'est pour ça que les Guelfes et les Gibelins, ce seraient des guerres civiles. Alors que la guerre Armagnac et Bourguignon, à la suite de cette proximité de sang, c'est une guerre plus que civile, c'est une guerre intestine. Plus que civile, c'est la guerre intestine. On trouve également l'expression guerre intestine. Alors, votre deuxième question, c'était...
Bon, c'est
voilà.
C'était un mot pour avoir une précision. Je propose de passer tout de suite en Angleterre, parce que ça doit y avoir tout de même des points communs et des divergences, et on posera des questions, enfin ceux qui voudront poser des questions aux deux orateurs après l'exposé, donc de Madame Aude Méret, qui est chargée de recherche au CNRS et qui va donc nous parler de la... Il faut dire la guerre des roses, c'est ça, alors que traditionnellement en France, on dit la guerre des deux roses. C'est les guerres. Et alors que nous disons la guerre des deux roses. Oui, on a tort. Bon, vous avez la parole.
Je vous remercie, et puis je vous remercie pour votre invitation également, qui me donne en plus l'honneur de parler après M. Contamine. Donc cette œuvre d'Henri Payne, que je vous ai mise là, a été commandée pour la décoration d'une galerie du palais de Westminster en 1908, et elle constitue une référence directe à une scène de la première partie de la trilogie Henri VI de Shakespeare, composée au tournant des années 1580-1590. La scène oppose, dans les années 1420, Richard Plantagenet, le duc d'York, qui est ici à gauche, au duc de Somerset, un cousin de la famille des Lancastre, à droite. Et Shakespeare, en fait, évoque dans cette scène, de manière imagée, la naissance de la querelle entre les Lancastre et les York. Richard York cueille le premier une rose blanche, en disant notamment, et qui tient à l'honneur de sa noble descendance, s'il considère que j'ai plaidé le vrai, qu'il cueille avec moi cette aubépine, sur cette aubépine la rose blanche. À quoi Somerset répond, en cueillant une rose rouge, celui qui n'est ni un peureux ni un flatteur, mais qui ose prendre le parti du vrai, qu'il cueille avec moi sur cet églantier la rose rouge. De fait, les trois parties d'Henri VI, accompagnées de Richard III, qui forment une tétralogie de jeunesse de Shakespeare, dépeignent avant tout le chaos des guerres civiles qui ont secoué l'Angleterre dans la seconde moitié du XVe siècle, et même un petit peu avant, généralement connue sous le nom de guerre des roses, donc au pluriel, même si dans mon titre j'ai mis le singulier, mais c'est plutôt le pluriel qu'il faut mettre. Même si ce n'est pas le dramaturge qui a inventé l'expression, sa vision d'une période chaotique et dominée par les intérêts personnels de l'aristocratie, influencée par les historiens Tudor, j'y reviendrai, a été durable, bien que ces pièces soient en réalité beaucoup plus complexes qu'on l'a longtemps prétendu. Cette noire version exerce encore aujourd'hui une grande attraction sur l'imaginaire collectif anglophone, par exemple la très célèbre série Game of Thrones, pour laquelle l'auteur George Martin a repris de nombreux éléments de cette vision shakespearienne. En réalité, c'est Walter Scott qui a, semble-t-il, utilisé pour la première fois l'expression « guerre des roses » dans son roman « Anne » of Kaiserstein, écrit en 1829, qui n'est pas un de ses romans les plus connus, il faut l'avouer. Ce roman retrace la mission du duc d'Oxford, John de Vere, et de son fils Arthur, partisan des Lancastres, après la victoire définitive d'Édouard IV d'York en 1471. Ils doivent tenter de convaincre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qu'on a déjà rencontré, de se rallier aux Lancastres alors qu'il est engagé dans ses guerres suisses. Cette mission sera finalement un échec, puisque le roman se termine par la mort du duc de Bourgogne, et sur une note plus positive, par le mariage d'Arthur de Vere et d'Anne de Kaiserstein, d'où le titre du roman. Et c'est au chapitre 7 de ce dernier que Scott évoque en quelques lignes le conflit entre York et Lancastre. Je vous lirai juste la fin. où il évoque donc la discorde civile si terriblement poursuivie dans les guerres des roses blanches et rouges. Scott donc s'inspire ici en particulier des mémoires de Philippe de Comines et évoque cette discorde civile qu'il relie en partie à la faiblesse d'Henri VI de Lancastre. Il ne sera pas le dernier. Sur le plan historiographique, les guerres des roses ont fait et font toujours l'objet de nombreuses controverses qui portent sur tous leurs aspects, de leurs origines à leurs conséquences, en passant par leurs modalités. Au XVIe siècle, l'interprétation des guerres civiles est dominée, comme l'ensemble de l'interprétation historique contemporaine en Angleterre, par ce qu'on a appelé les historiens Tudor. Il faut citer en particulier Polydore Virgile, un humaniste italien attiré à la cour anglaise par le premier Tudor, Henri VII, et auteur d'une monumentale Anglia Historia, composée au tournant des années 1500-1510, qui ne sera cependant publiée qu'en 1534. Il y dresse un sombre portrait du XVe siècle anglais et attribue en partie la guerre civile à une punition divine causée par l'usurpation d'Henri IV de Lancastre au détriment de Richard II en 1399. Un peu plus tard, l'homme de loi londonien Edward Hall rédige une chronique intitulée « L'union des deux nobles familles de Lancastre et d'York, qui narre l'histoire anglaise depuis l'accession d'Henri IV et connaîtra une très grande popularité. C'est en grande partie cet ouvrage qui a inspiré Shakespeare. Tout en faisant également remonter l'origine de la guerre civile à l'usurpation d'Henri IV, Hall insiste toutefois moins sur la punition divine que sur les responsabilités de l'aristocratie, mue davantage par ses ambitions et ses intérêts personnels que par l'amour du bon gouvernement. Il insiste également sur la complexité de la période. Toutefois, il faut attendre le XIXe siècle et surtout sa seconde moitié pour que cette vision tudorienne de la guerre civile soit interrogée dans le cadre de la mise en place d'une histoire positiviste ou plus exactement pour la Grande-Bretagne, d'une interprétation Whig de l'histoire. Les travaux de William Stubbs, évêque d'Oxford de son état, sont à cet égard fondateurs, mais on pourrait en citer d'autres. Cette historiographie a considéré le XVe siècle anglais, donc de l'usurpation d'Henri IV à l'avènement d'Henri VII Tudor en 1485, comme une sombre période, un accroc à l'inexorable ascension de la nation anglaise portée par le progrès vers les libertés parlementaires et la monarchie constitutionnelle. Certes, des nuances ont été apportées à ce schéma fin 19e et dans la première moitié du 20e, notamment par John Richard Green, qui a introduit le concept de new monarchy, laquelle aura été inaugurée par Henri VII et poursuivie par Henri VIII au XVIe siècle. Et c'est en fait ce qui institue pendant très longtemps une rupture fondamentale entre le Moyen-Âge et la période mondaine, dans l'historiographie anglaise, j'entends. Mais il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle et les travaux du médiéviste anglais qui a sans doute le plus révolutionné l'étude de l'histoire anglaise de cette période, Kenneth Bruce Macfarlane, qui, dans un article publié en 1964, qui est vraiment un classique, intitulé « The Wars of the Roses », a revisité les principaux aspects des guerres civiles, notamment les motivations et les actions de l'aristocratie, et relativisé l'obscurité de la période portée tant par les historiens Tudor que par les historiens Whigs. Et il en arrive, je vous passe tout son raisonnement, à la conclusion suivante. Le blâme réel pour chacune des guerres des roses successives se situe, me semble-t-il, dans les échecs d'Henri VI, Édouard IV, avant 1471, et Richard III, à établir la présomption que l'ordre, la justice et les droits des propriétés seraient maintenus. La fidélité des classes possédantes était davantage engagée par l'espoir d'un gouvernement efficace que par l'attachement à un souverain ou à une dynastie en particulier. Alors, depuis Macfarlane, les controverses n'ont pas cessé, à propos notamment de l'impact réel des guerres des roses sur la société anglaise et surtout sur les évolutions politiques de l'Angleterre de la fin du Moyen-Âge. Dans le cadre d'une monarchie fortement centralisée de manière précoce, au moins depuis la seconde moitié du XIIe siècle, même s'il y a une indéniable accélération sous le règne d'Édouard Ier, fin XIIIe, en lien notamment avec ces guerres de conquête dans les îles britanniques et les premières confrontations avec la France, l'impact de ces guerres civiles sur la construction de l'État anglais se pose de manière aiguë. Mais c'est évidemment une question qui ne peut être analysée qu'après avoir rapidement évoqué les origines et les modalités de ces guerres civiles. Donc je vais résumer très rapidement les événements, parce que c'est très très compliqué, et d'autant que les historiens n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur le découpage chronologique des événements, comme le montre ce tableau, ni même sur le début, les fins de ces guerres civiles. Bon, pour certains, ça commence en 1450, ça finit en 1487, pour d'autres, ça va même jusqu'à finir en 1525. Donc, la chronologie est très large. Sans remonter à l'usurpation de 1399, il est de fait qu'au milieu du XVe siècle, le système politique anglais est déréglé. Et c'est vraiment à partir de 1450 que les événements dramatiques s'enchaînent. Après la mort d'Henri V de Lancastre en 1422, donc le vainqueur d'Azincourt, et le bénéficiaire du traité de Troyes de 1420, son fils Henri VI lui succède sur le trône alors qu'il n'est âgé que de 9 mois, ce qui ouvre une période de régence assurée par le Conseil royal. Ce Conseil fait de réels efforts, au moins dans les premiers temps, pour s'accorder, s'entendre, mais la situation se dégrade progressivement, d'autant plus au fil des années que le contexte militaire de la fin de la guerre de Cent Ans est de plus en plus défavorable aux Anglais. À partir des années 1420, ils essuient des défaites répétées en France, et plus encore après l'épisode de Jeanne d'Arc en 1429-1430. Or, une fois Henri VI devenu adulte, la situation continue de péricliter, et dans les années 1440, les tensions au sein de la noblesse se déchaînent. Et la perte définitive des territoires français en 1450-1453 ne contribue évidemment pas à améliorer la situation. Ce contexte politique, qui s'accompagne d'une situation économique difficile, génère une révolte importante en 1450 menée par un certain Jack Cade, ce qui ajoute encore à la panique des élites dirigeantes. Pour tenter de remédier à la situation, le duc Richard York, un des nobles les plus puissants du royaume, tant en terre qu'en pouvoir politique et en richesse, revendique davantage de pouvoir, en partie, on y reviendra, au nom d'idées réformatrices qui circulent alors. Il rallie de nombreux partisans mécontents, surtout après la première crise de folie d'Henri VI en 1453. Il avait la même maladie que son grand-père Charles VI de France. Cette folie confirme évidemment le vide auquel est confrontée la monarchie. York devient protecteur du royaume à deux reprises, sans pour autant faire l'unanimité. Et après une série de confrontations armées que l'on peut voir sur cette carte, qui vous montre les différentes batailles qui ont lieu, donc après une série de confrontations armées, amplifiées par les rivalités parallèles au sein de la noblesse, York finit par revendiquer le trône en 1460, sous le prétexte qu'il est un descendant plus direct d'Édouard III qu'Henri VI, mais par sa mère. Mais finalement, c'est son fils, Édouard York, duc de la Marche, qui réussit à s'emparer de la couronne en mars 1461 sous le nom d'Édouard IV, après la mort de son père. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Les violences continuent et les rébellions attisées par les Lancastres et en particulier par la reine Marguerite d'Anjou se multiplient, compliquées à la fin des années 1460 par la défection du principal et puissant allié d'Édouard, le comte de Warwick, Richard Neville. En conséquence, Henri VI est restauré quelques mois en 1470-1471 et Édouard IV doit momentanément s'exiler. Il reconquiert le trône quelques mois plus tard et réussit dans l'ensemble à restaurer la paix civile. Mais il meurt en 1483 dans son lit et personne ne s'oppose alors à ce que son frère Richard, lorsqu'il élimine ses deux neveux et s'empare de la couronne, donc sous le nom de Richard III. Toutefois, il doit rapidement affronter l'ire de la société politique et finalement, en 1485, Henri Tudor, un cousin très éloigné d'Henri VI, s'empare à son tour de la couronne sous le nom d'Henri VII. Il épouse la fille d'Édouard IV, Élisabeth York, symbole de la réconciliation des Lancastres et des York, d'où le nom de la chronique d'Edward Hall. Les guerres civiles semblent terminées, même si pour certains, il faut encore inclure les nombreuses révoltes auxquelles doit faire face Henri VII et même le début du règne d'Henri VIII. Ce très court résumé ne fait qu'effleurer la complexité des événements intervenus dans la seconde moitié du XVe siècle. Quant à ces causes, elles font l'objet de nombreuses discussions. On peut toutefois en dégager quelques points majeurs. Tout d'abord, le premier facteur, souligné en particulier par John Hatcher, est d'ordre économique. Dans la première moitié du XVe, l'Angleterre a connu, comme d'autres pays européens, une situation démographique et économique très difficile. Après les grandes épidémies de peste, la reprise de la démographie a tardé. Et les années 1410-1450 sont celles d'un étiage. L'Angleterre compte peut-être en 1450 à peine plus de 2 millions d'habitants, contre entre 4 et 5 millions vers 1300, donc une diminution de moitié, même si ce sont des estimations évidemment. Cette dépopulation s'est accompagnée d'une récession économique importante, même si tous les secteurs n'ont pas été également touchés. Et la reprise générale n'a pas lieu avant le dernier quart du XVe siècle. Cette récession a des conséquences sociales, bien sûr, mais également politiques. D'une part, les revenus seigneuriaux sont contractés, ce qui exacerbe la concurrence pour les terres. D'autre part, la couronne s'endette toujours plus, non seulement parce que ses revenus sont réduits, mais aussi parce que ses dépenses militaires pour maintenir la présence anglaise en France sont exorbitantes et que les conseillers royaux sont en plus obligés d'aliéner toujours plus de revenus pour s'assurer un patronage instable en temps de faiblesse royale. Résultat, les dettes de la couronne s'élèvent en 1444 à 372 000 livres sterling. C'est une somme absolument considérable. La perte des territoires français, deuxième élément, constitue un autre facteur essentiel sur tous les plans. Les plus évidents sont d'ordre politique, dans la mesure où les dirigeants se sont déchirés dans les années 1440 sur la politique à suivre. À ce moment-là, le gouvernement est dominé par le cardinal Beaufort et par le duc de Suffolk, William de la Pole. Ce dernier a tenté une politique de négociation avec le roi de France, qui se traduit par la trêve de Tours en 1444 et le mariage d'Henri VI avec Marguerite d'Anjou, fille de René d'Anjou. Mais cette politique rencontre l'opposition de plusieurs membres de l'aristocratie, notamment le duc de Gloucester, qui est un des oncles du roi, ou Richard York. Ces rivalités sont d'autant plus âpres qu'elles se doublent de rivalités personnelles. Mais la politique de Suffolk est un échec, il le paiera d'ailleurs de sa vie, et la reconquête de Charles VII, qui lance l'offensive en 1449, aboutit à la perte de tous les territoires anglais en France, à l'exception de Calais. Cette perte a à son tour des conséquences importantes d'ordre socio-économique et politique, mais aussi psychologique. En particulier, le retour de nombreux vétérans désormais désœuvrés et l'afflux soudain de réfugiés ont constitué d'importants facteurs de déstabilisation, comme en témoigne par exemple la structure sociale des révoltés de 1450. Le consensus sur ces deux facteurs est relativement large. Il n'en est pas de même pour les suivants. Un certain nombre d'historiens, tels Anthony Pollard, ont proposé une explication systémique des guerres civiles. Les guerres civiles seraient principalement dues à la structure même du bastard féodalisme, que Jean-Philippe Genet préfère de qualifier de féodalisme d'État, autrement dit au rapport entre le roi et la noblesse. L'Angleterre de la fin du Moyen-Âge, en effet, comme d'autres pays européens, se caractérise par un féodalisme où, si les rapports d'homme à homme demeurent, ils sont désormais fondés sur l'argent, au moins autant que sur la terre, même si la terre reste la base de la domination sociale. À partir du XIIIe, un nouveau lien contractuel se substitue à celui en partie fossilisé que constitue le fief, c'est la retenue, par laquelle un homme en retient un autre à son service, donc, qui peut être plus ou moins formalisé. Le système n'est pas en soi dangereux pour la royauté. Non seulement le roi possède lui-même sa propre retenue, la plus importante du royaume, mais il se trouve au sommet de la pyramide féodale. Mais le roi a besoin de l'aristocratie pour gouverner le pays et assurer l'ordre dans les localités, enfin dans les comtés. Car si l'État anglais est plus centralisé que d'autres, il est aussi plus petit, le nombre d'administrateurs reste quand même assez faible. La retenue s'avère par ailleurs généralement très efficace en temps de guerre, en tout cas dans les premières phases de la guerre de Cent Ans, et surtout au moment du début du XVe siècle, quand Henri V entame des guerres de conquête, puisqu'elles permettent une mobilisation rapide des troupes. Inversement, les nobles, même les plus importants, ont besoin de la royauté et de son rôle d'arbitrage qu'elle seule peut assurer à travers les institutions formelles ou informelles auxquelles les nobles participent eux-mêmes. En fin de compte, je cite Jean-Philippe Genet, la féodalité bâtarde est un phénomène politique, expression changeante de rapport de force. C'est un marché politique de la protection et de la légitimation qui fonctionne au bénéfice de l'aristocratie, la sécurisant dans l'exercice de sa seigneurie, un marché dont le souverain est en temps normal le garant et l'arbitre. Donc, des historiens comme Pollard se sont demandé si le système n'était pas lui-même porteur de son dérèglement. Je le cite, « Les guerres de Rose étaient-elles une conséquence ou un reflet des transformations sociales sur le long terme et d'un changement dans l'équilibre du pouvoir entre la couronne et ses principaux sujets ?» Plus précisément, Michael Hicks a rejeté une grande partie de la responsabilité des guerres civiles sur ce qu'il a appelé les « overmighty subjects », donc les sujets trop puissants, dont la trop grande domination remonterait, selon lui, au règne d'Édouard III, encore que beaucoup contestent cette interprétation. Pour Hicks, ces sujets trop puissants, principalement Richard York et son fils Édouard, les deux Richard Neville, père et fils, les frères d'Édouard IV, donc, le duc de Clarence et le futur Richard III, et la famille des De La Pole sous le règne d'Henri VII, ont joué un rôle essentiel et que tous ont tenté de se saisir du pouvoir, ce qui a d'ailleurs finalement provoqué leur perte pratiquement pour tous. D'autres historiens, tels Christine Carpenter, a repris en l'affinant l'hypothèse de Macfarlane et davantage insisté sur la faiblesse et l'incompétence d'Henri VI qui aurait pour l'essentiel provoqué cette instabilité politique, dans la mesure où un roi fort et charismatique est nécessaire pour dialoguer et arbitrer avec son aristocratie. De fait, Henri VI est largement considéré comme un roi faible, certes pieux, mais inopérant sur le plan politique, sentiment qui apparaît d'ailleurs chez certains de ses contemporains, y compris ceux qui le louent par ailleurs. Notons toutefois que dans son dernier livre, X, encore lui, apportait un jugement plus nuancé en soulignant qu'Henri VI aurait en réalité agi sur différents plans, en particulier sur la question de la paix avec la France, et qu'il est loin d'être le seul à blâmer. Cela dit, si Henri VI a réellement été plus décisionnaire qu'on ne l'a dit, cela renforce peut-être encore davantage son inefficacité et son incapacité à réguler la politique anglaise. D'autres encore ont insisté sur la question dynastique. Alors là, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais c'est difficile à résumer, qui est évidemment importante et doit être reliée au péché originel des Lancastres, si on peut dire, c'est-à-dire à l'usurpation de 1399. Pourtant, la question dynastique ne se pose vraiment qu'en 1460, lorsque Richard York revendique officiellement la couronne. Il est possible que cette revendication ait constitué pour lui la dernière alternative pour débloquer une situation devenue chaotique, mais Richard devait la justifier et ne pouvait le faire qu'en lien avec l'usurpation de 1399, d'autant qu'avant 1453, c'est-à-dire avant la naissance du prince Édouard, fils d'Henri VI, Richard était l'héritier présomptif de la couronne. Après donc la naissance d'Édouard, il doit justifier sa revendication au trône par le fait qu'il descend à la fois du quatrième fils d'Édouard III par son père, donc c'est ce que j'ai mis en gris en gros, hein, et du deuxième fils d'Édouard III par sa mère. Selon cette ligne, l'accession d'Henri IV de Lancastre, donc qui est fils du troisième fils d'Édouard et duc de Lancastre, aurait constitué une usurpation des droits de sa famille, puisque Henri IV, en 1399, avait démontré pour se légitimer que seule la descendance par voie masculine était réellement valide. De fait, Édouard IV s'employa largement à légitimer cette revendication, mais replacée dans le contexte global, cette question dynastique apparaît davantage comme une conséquence des tensions que comme une de leurs véritables causes. Plus récemment, enfin, des historiens se sont risqués sur le terrain des principes et des idées. En particulier, la question des politiques. Popular politics, qui ne recouvre pas tout à fait le terme populaire français, et du rôle des commons, des communes, a été soulevée. Elle a été brillamment analysée par John Watts et plus récemment par David Grammett. Cette analyse doit être replacée dans le contexte plus large de l'affirmation des commons dans le domaine politique, qu'il s'agisse, car le terme est très ambivalent, des communes en parlement, parce que le parlement anglais est en gros formé définitivement en 1322, ou des couches sociales non aristocrates, c'est-à-dire essentiellement les paysans aisés, les artisans, voire les membres mineurs du clergé, les couches les plus pauvres restant globalement exclues de ce mouvement. Cette affirmation remonte au moins au milieu du XIVe siècle et surtout aux années 1370, en lien à la fois avec les demandes financières d'Édouard III liées à la guerre en France et plus largement à toute une série de facteurs socio-économiques et culturels qu'il est impossible de détailler ici, que je renverrai à des ouvrages dans la version écrite. Quoi qu'il en soit, à la fin du XIVe siècle et dans la première moitié du XVe, il existe un réel dialogue politique autour d'un certain nombre d'idées essentielles qui tournent autour du bien commun, de la réforme du royaume, mais aussi des risques de division de la communauté politique. La plupart de ces idées n'étant pas neuves en soi, mais acquérant une dimension nouvelle. On les trouve exprimées dans de nombreux types de sources, des pétitions parlementaires, des manifestes, des traités polémiques, de la poésie, etc., etc. Les manifestes des révoltés de 1450, repris en partie par le duc d'York et le comte de Warwick, en sont des témoignages éloquents. Cette période constitue bien un moment d'affirmation et d'élargissement de la société politique, un des éléments indispensables au développement d'un État moderne. En réalité, et comme souvent, il semble que ces différents facteurs ne sont pas exclusifs, mais interagissent entre eux, révélant ainsi la complexité des causes des guerres civiles. Cela apparaît également avec l'étude de leurs modalités. Dans le cadre de cette communication, je ne pourrai évidemment pas tout examiner et me concentrerai donc sur trois points, la dimension militaire, les rapports entre guerre civile et guerre privée et la question de la communication politique. Durant très longtemps, la dimension militaire a été largement minimisée, mais la question des opérations et de l'implication réelle de la population doit être envisagée. Là aussi, il y a beaucoup de controverses, mais on peut dégager deux ou trois points. Globalement, toutes les batailles ont été courtes et peu coûteuse en hommes, à quelques exceptions près, dont la plus notable est la bataille de Towton en mars 1461, qui, de l'avis général des contemporains, a été la plus sanglante, tant pour l'aristocratie que pour les simples soldats. Les estimations qui atteignent les 20 000 morts sont sans doute exagérées, mais donnent un ordre d'idée. Pour l'essentiel, les batailles prenaient fin suite à la capture ou à la mort du leader d'un camp. C'est le cas, par exemple, lors de la bataille de Bosworth en août 1485, qui s'est terminée avec la mort de Richard III. Toutefois, la dimension symbolique ne doit pas être négligée, et en particulier tout ce qui a trait à la conception de la chevalerie, qui a constitué, notamment du côté des Yorkistes, un argument fort de leur lutte contre les Lancastres, à tel point d'ailleurs que certains ont pu parler de retour du chevaleresque, de revival, sous le règne d'Édouard IV. Ce concept est à mon avis assez contestable, toutefois dans la mesure où l'habitus de la chevalerie n'était pas mort dans la première moitié du XVe. Nombreux sont ceux, par ailleurs, qui ont évoqué la multiplication des guerres privées, pourtant très tôt interdites en Angleterre durant cette période. Les antagonismes centraux se sont en effet superposés aux oppositions locales dans une sorte de cercle vicieux. La guerre privée la plus célèbre est sans doute celle qui opposa dans le nord du royaume les Percy et les Neville, les deux principales familles de la région, en lutte plus ou moins larvée depuis plusieurs décennies. Mais la plupart des régions étaient touchées, je passe sur les exemples. En réalité, ces guerres privées, que certains historiens appellent aussi des land wars, parce que c'est des luttes pour la terre, ne peuvent être traitées séparément, d'autant qu'elles sont consubstantielles au système du féodalisme d'État et à son dérèglement. Mais l'exacerbation de ces rivalités aristocratiques durant ces années sont également en grande partie liées à la contraction de leurs revenus, liées lui-même à la crise économique, au dérèglement du patronage royal et, dans une moindre mesure, à la perte des revenus tirés des territoires français. Un autre développement important durant cette période se situe dans le domaine de la communication politique, voire de la propagande, même si ce terme me paraît délicat à employer pour ma part. On a vu qu'il existait une véritable réflexion multiforme sur le gouvernement du royaume depuis plusieurs décennies, et les grands, en particulier Édouard IV, ne s'y sont pas trompés et ont développé de nombreux outils afin de faire porter leurs propres arguments. Proclamation royale de plus en plus exposée en anglais, et non plus en français ou en latin, discours parlementaires, libelles et autres placards, généalogies figurées, etc. Tout, cependant, ne relève pas des plus hautes sphères sociales, on l'a vu avec le cas des manifestes des révoltés de 1450. Les idées réformatrices, comme les dénonciations de la faction opposée, s'expriment aussi par d'autres voies, à l'initiative, par exemple, de certaines couches de la population urbaine, tels ces poèmes dont on sait qu'ils ont été placardés avant d'être recopiés dans des manuscrits. Elles sont également à l'œuvre dans des réflexions plus sophistiquées, comme les traités politiques de John Fortescue, un partisan des Lancastriens jusqu'à l'avènement d'Édouard IV, ou de William de Worcester, ou encore des poèmes politiques influencés par l'humanisme, telle cette adaptation polémique du Dere Militari de Végès, intitulée Nighthawk and Battle, composée par un prêtre calaisien en 1459 pour soutenir les Lancastres, et écrit dans un langage particulièrement sophistiqué. Paul Strom, pour qualifier cet ensemble de textes, a employé l'expression de littérature pré-machiavélienne, qui n'est d'ailleurs pas restée sans influence, comme le montre par exemple la réception des textes de Fortescue à l'époque d'Henri VII. Si la production de nombre de ces textes est donc directement liée aux guerres civiles, leur origine comme leur impact fut souvent bien plus large. Qu'en est-il pour les autres aspects ? J'en arrive maintenant aux conséquences. Les conséquences des guerres civiles ont été minimisées par de nombreux historiens. Selon Anthony Pollard, par exemple, je le cite, « les combats furent largement restreints aux luttes pour le pouvoir des élites possédantes et n'ont été particulièrement mortels que pour ceux qui ont eu l'infortune d'avoir du sang royal coulant dans leurs veines. » Et il faut souligner que globalement, les institutions gouvernementales n'ont jamais cessé de fonctionner pendant les guerres civiles. Récemment, toutefois, cette conclusion, assez largement partagée, a été revisitée, notamment par David Crummett dans sa synthèse de 2013, donc très récent, et ce sur de nombreux plans. Grummett soutient tout d'abord que la dimension militaire des guerres civiles a peut-être été plus importante qu'on ne l'a dit. En réalité, il replace son affirmation dans le cadre d'un débat plus général sur la question de la militarisation de la société anglaise au XVe siècle, s'opposant notamment aux hypothèses sur la désaffection de l'aristocratie anglaise pour les armes durant cette période. Ces hypothèses se sont appuyées d'une part sur la réduction de la taille des armées anglaises au XVe par rapport au XIVe, qui n'aurait compté en moyenne plus que 3000 hommes environ après la campagne d'Azincourt en 1415. D'autre part, pour beaucoup, les membres de la gentry, la petite et moyenne noblesse, auraient préféré se tourner vers l'administration et la justice plutôt que vers une carrière militaire. Toutefois, des études récentes ont montré que même si les armées anglaises étaient plus petites au XVe siècle, la fréquence des expéditions continue à mobiliser un large pan de la société. En outre, des études prosopographiques plus fines de la gentry ont souligné que carrière militaire et carrière politique n'étaient pas incompatibles. Dans ces conditions, la participation aux guerres civiles s'est inscrite dans une culture profondément militaire, au moins avant 1461, la bataille de Taunton ayant constitué pour lui un véritable tournant, tant pour la noblesse titrée que pour la gentry. Cela expliquerait d'ailleurs, pour une part au moins, l'absence de rédaction au coup de réaction pardon, au coup d'État de Richard III en 1483. De fait, Grummitt réévalue également l'impact des guerres civiles sur l'aristocratie, qui aurait été beaucoup plus important qu'on l'a dit. En réalité, son hypothèse souligne toutefois le fait que l'évolution de l'aristocratie n'est pas uniquement liée aux guerres des roses. En effet, il note, après Macfarlane, que finalement, peu de lignées se sont éteintes uniquement à cause de la mortalité sur les champs de bataille. Cette mortalité n'aurait fait que précipiter une situation démographique déjà périlleuse pour certaines familles. C'est donc bien une combinaison de facteurs qui a conduit à l'élaboration de nouveaux rapports de force, marqués également par le jeu des prises de position politiquement fatales pour certaines familles, telles les Neville après 1471, pour ne citer qu'eux. Un troisième point important, selon Grummitt, est l'impact sur la participation au dialogue politique et à la vie politique des communes non institutionnelles. On a vu que ces dernières revendiquaient un rôle politique plus important, donc depuis au moins le dernier quart du XIVe siècle, et que la révolte de 1450 a constitué une sorte de point d'orgue de ce mouvement. Or, selon lui, cette participation aurait été considérée par une large partie des élites, aristocratie, mais aussi élites urbaines, comme des causes importantes des divisions du pays et donc comme un facteur d'instabilité. Dès les années 1470, la participation des communes, ou en tout cas leur part la plus populaire, aurait donc été systématiquement délégitimée et le dialogue politique de plus en plus fermé. Il me semble toutefois que cette fermeture n'est pas seulement liée aux guerres civiles. En réalité, il existe une réelle peur des élites depuis au moins la grande révolte de 1381. Et même si les Lancastriens puis les Yorkistes ont essayé à grands frais de rallier les communes à leur cause, d'autres indices suggèrent qu'un resserrement est en cours dès avant la seconde moitié du XVe siècle, particulièrement dans les villes, où l'oligarchie est de plus en plus resserrée. Il s'agit donc d'un mouvement de réaction beaucoup plus large qui a commencé dès les années 1370, si ce n'est plus tôt. Un seul exemple, celui des luttes politiques londoniennes dans les dernières décennies du XIVe, qui ont opposé pour le contrôle de la ville le parti réformateur mené par John Lansdowne et le parti oligarchique de Nicholas Banbury, ce dernier ayant finalement réussi à s'imposer. Enfin, se pose la question cruciale des guerres civiles sur la structure même du système politique et gouvernemental, avec en particulier toute la question de la New Monarchy, là encore très discutée. Ce concept, on l'a vu, a été introduit par John Green fin 19e, mais il a surtout été développé au début du 20e par Alfred Pollard, à ne pas confondre avec Anthony. Selon lui, cette nouvelle monarchie inaugurée par Henri VII était, je cite, « fondée sur l'innovation bureaucratique et le désir de rendre la noblesse obéissante à la volonté royale ». Cette conception est bien sûr à mettre en relation avec le découpage chronologique qui a longtemps prévalu, faisant de l'année 1485 le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Depuis les années 1950, toutefois, ces conceptions ont largement été remises en cause, nuançant toujours plus l'idée d'un tournant brutal et complet en 1485. D'une part, les modernistes placent désormais plus volontiers les vraies transformations sous le règne d'Henri VIII dans les années 1530. D'autre part, les médiévistes ont insisté sur le fait que de nombreux aspects de la nouvelle monarchie étaient déjà en cours de développement sous Édouard IV et peut-être même plus tôt. De fait, de nombreux historiens ont réévalué positivement le second règne d'Édouard entre 1471 et 1483. Et pour Jean-Philippe Genet, par exemple, le second règne d'Édouard IV est un incontestable succès où sont mises en place les méthodes de gouvernement qui feront la réussite des Tudors. Je passe sur ceux qui, cela dit, ne sont pas d'accord avec cette explication, notamment sur le plan économique. On peut dès lors arguer, ce sera ma conclusion, que ce sont bien les guerres civiles qui ont conduit Édouard et son entourage à prendre un certain nombre de mesures allant dans le sens d'une rationalisation du gouvernement, d'une optimisation des biens de la couronne ou encore d'une politique de contrôle de la noblesse, non seulement au niveau central mais aussi au niveau régional. Néanmoins, il me semble que pour tous les points que je viens d'aborder, les guerres civiles ont plus souvent constitué un accélérateur et ont eu en cela un impact important qu'elles n'ont rarement que constitué les causes premières ou en tout cas les seules causes des transformations. C'est le cas, on l'a vu, avec la question de la participation des communes, avec les transformations des rapports de pouvoir au sein de l'aristocratie, mais aussi avec les innovations concernant le gouvernement, qui sont tout autant liées à la fin de la guerre avec la France ou à la crise économique et démographique. Finalement, peut-on parler de guerre constructive pour les guerres des roses, pour reprendre le titre de cette matinée ? En un sens, oui, mais surtout dans la mesure, à mon avis, où elles ont plus souvent constitué un catalyseur ou un accélérateur de transformation essentielle pour l'Angleterre du XVe siècle qu'un unique facteur de causalité. Je vous remercie.
Merci, madame, pour cet exposé qui a réussi à débrouiller un ensemble de développements extrêmement complexes et qui illustre enfin, la capacité, en particulier des historiens. Alors, je ne sais pas anglais, peut-être plus que les historiens français, à n'être pas d'accord entre eux. Ça doit être lié à des stratégies de carrière, je suppose. Alors, lorsqu'on n'y connaît rien, ce qui est mon cas, on s'étonne parce que les choses humaines étant complexes, elles ont forcément plusieurs dimensions. Et si on n'en retient qu'une, on est sûr de se tromper. Et donc, il faut adopter un point de vue qui permette de tenir compte. Et bon, il est assez facile, vous l'avez fait, me semble-t-il, de parvenir à une perception d'abord et ensuite une interprétation de bon sens de ces événements. Et c'est votre conclusion, c'est du moins ainsi que je l'ai ressenti. Donc, merci. Eh bien, nous avons, par exception, un peu de temps pour poser des questions, pour pousser nos deux orateurs jusque dans leur dernier retranchement. C'est vraiment, je crois, un tournant. Alors, je peux peut-être poser la question à l'un des deux. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes pas spécialiste, mais avez-vous une petite idée ou une grande idée sur ce qui se passe ailleurs, en Italie, en Espagne, dans les Allemagnes, concernant enfin, cette période et sa contribution à la construction politique tout de même européenne comme accélérateur, je pense que c'est ça, ou catalyseur de développement qui, bien entendu, ont leurs racines bien avant. Donc, est-ce que vous avez une idée? Je suppose que oui, enfin.
Assez rapidement que les historiens français, les historiens de la France, les historiens anglais, les historiens de l'Angleterre, même s'il y a des divergences entre eux, sont en présence de problèmes assez parallèles. Et donc nous avons, nous autres historiens français, intérêt à prendre en compte, prendre en charge, connaître tout simplement les développements de l'école historique anglaise sur le XIVe et le XVe siècle, parce que cette école historique, comme vous l'avez souligné, comme l'a remarqué Jean Béchler, est extrêmement vigoureuse. Elle est vigoureuse un petit peu comme au XIVe et XVe siècle, selon l'opinion commune française, les Anglais étaient agressifs. Bon, alors il y a peut-être un petit peu de cela. Donc, incontestablement, c'est un couple. C'est le couple France-Angleterre avec, disons, des réactions, guerre de 100 ans, mais également avec des formules politiques à la fois parallèles, divergentes, complémentaires, avec une communauté de vocabulaire même. On voit effectivement le bien public, la communication politique. Du reste, des textes ont été, Christine de Pizan a été traduit en anglais, il ne faut pas l'oublier. Alain Chartier, même chose, hein. Le quadrilogue invectif qui a l'air d'être, disons, un pamphlet du plus pur patriotisme français, a été traduit, même à deux reprises, en Angleterre. Donc il y a une communauté et on se trouve en présence de phénomènes du même genre, avec cependant des divergences. Il est certain qu'en présence des guerres des Roses, on est vraiment en présence de guerres civiles. Il n'y a pas les York ne sont pas des étrangers par rapport à ou assez peu, je ne sais pas.
On peut même reprendre le terme de guerre intestine dans un sens.
De guerre intestine. Alors
cousins,
qu'en France, c'est ce que j'ai essayé de montrer, on peut toujours se poser la question. Donc en 1488, il y a eu la bataille de Saint-Aubin du Cormier entre les Français et les Bretons, guerre civile, guerre étrangère, on peut hésiter, puisque la bataille de Saint-Aubin de Cormier est finalement le résultat de la guerre folle qui, elle, apparaît comme une guerre civile entre Charles VIII et son cousin Louis d'Orléans, le futur Louis XII. Alors, en ce qui concerne maintenant les autres secteurs de l'Europe, oui, il y a des phénomènes de ce genre, et notamment dans la Castille du XVe siècle, on est en présence, effectivement, de luttes, disons, au sommet de princes extrêmement puissants avec des raisons dynastiques plus ou moins fortes. Oui, là, il y aurait une trilogie. On pourrait faire une comparaison entre la Castille, examinée sur la même, la Castille, l'Angleterre, la France. Bon, mais en ce qui concerne maintenant l'Italie, je crois que les phénomènes sont très très différents. Et même si dans l'Italie méridionale, à l'époque des guerres d'Italie, justement, il y a des éléments comparables, mais là, en Italie, nous avons le concept de cité, qui est cité, ça implique au fond le citoyen, et par conséquent la guerre civile. Et donc là, on est, je crois, dans un autre modèle. Mais cet autre modèle italien a la même culture que les penseurs politiques français du XIVe, XVe siècle. Il se reporte, regardez Machiavel, il renvoie, disons, à l'histoire de la Rome ancienne. Donc il y a une communauté culturelle, et justement dans l'interprétation des événements comme ceux que nous appelons guerre civile, guerre intestine, discorde civile, dissension civile, etc. Donc je crois qu'effectivement, il y a intérêt, ce sera, je m'arrête là, il y a intérêt à examiner, dans la mesure naturellement des compétences de chacun, sous un œil synthétique, la destinée de l'Occident européen, même si cela fonctionne spécialement bien en ce qui concerne les grandes monarchies, celles que j'ai citées, la Castille, l'Angleterre, la France.
Oui. Moi, j'ajouterais juste deux éléments. Le premier, c'est que, effectivement, les historiens anglais sont vigoureux, mais toujours courtois. Mais effectivement, ils sont beaucoup plus, n'hésitent jamais, par exemple, dans un compte-rendu, à dire ce qu'ils pensent, surtout quand ils ne sont pas d'accord. Mais donc ça, c'était juste pour l'anecdote. Pour le reste, je suis assez d'accord, je suis d'accord avec Philippe Contamine. Effectivement, l'exemple de la Castille est particulièrement pertinent. Il y a eu des guerres civiles très nettes au XVe. Pour l'Italie, il y a quand même des cas où les grandes cités qui se transforment en principautés seigneuriales, par exemple Milan ou Florence. Et à Florence, il y a des cas, effectivement, que Machiavel déplore d'ailleurs, qui ressemblent, qui pourraient être rapprochés des guerres civiles, même si, effectivement, il y a quand même des grosses différences. Mais la comparaison est intéressante, parce qu'on est dans un système où vraiment le prince doit apporter, doit construire peut-être beaucoup plus sa légitimité que dans les monarchies françaises, anglaises et castillanes, où la question de la légitimité ne se pose pas tout à fait de la même manière. Mais la comparaison est très importante, en tout cas.
Passer plein de choses au début du XVIe siècle dans les pays germaniques. Alors, et donc ça se prépare avant.
L'Allemagne, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a certaines parties qui sont des cités, notamment les cités de la Hanse, etc., qui sont plutôt sur le modèle de la cité, avec une bourgeoisie extrêmement forte, une oligarchie politique importante. Il y a aussi des principautés. Et donc là, c'est difficile. Je ne connais pas assez bien toutes les détails, mais disons que il faut regarder vraiment selon les situations, parce que la situation va être très différente selon qu'on se trouve dans la principauté de Bavière ou à Lübeck, par exemple. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, parce que il y a des discours de toute manière, de même en Flandre, dans les territoires du duc de Bourgogne au XVe siècle, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent.
Je crois que le cas allemand est un cas extrêmement intéressant. Je pense qu'au XIVe et plus encore au XVe siècle, il y a une nation allemande. Il y a une nation allemande assez cohérente, et surtout lorsqu'elle est agressée. Et c'est justement ce que les Allemands, disons, reprochaient à Charles Téméraire, ennemi de tout ce qui est allemand. Et donc les Allemands, qui sont divisés en un certain nombre de pays, de territoires, plus ou moins souverains, avec des villes libres, avec des principautés, etc., ils ont une certaine solidarité. L'Empire, le Saint-Empire romain de nation germanique. C'est le Saint-Empire romain de nation germanique. Par conséquent, on peut dire, à partir du moment où il y a une nation germanique, que toutes les guerres qui sévissent à l'intérieur de l'espace allemand, disons entre 1400 et 1500, par exemple, sont des guerres civiles. Ça, c'est une affaire entendue. Je pense malgré tout que il y a quand même, dans ces conflits, je ne peux pas les détailler, il y en a beaucoup, etc., tout un côté féodal et dynastique. Et à ce moment-là, eh bien, le terme de guerre civile, je ne sais pas si on le trouve dans les sources allemandes du XVe siècle, mais le terme de guerre civile, les historiens, me semble-t-il, auraient quelques scrupules à l'appliquer.
Cela dit, il y a aussi d'autres exemples en Europe centrale qui se rapprochent plus des monarchies françaises, par exemple la Bohême, dont le roi d'ailleurs était très influencé par la monarchie française, où là on retrouve des choses beaucoup plus comparables, je pense, avec la France et l'Angleterre, avec tout ce qui s'est passé en Bohême au cours du XVe siècle, pour la construction de l'État aussi, etc. Donc il y a aussi d'autres cas intéressants à cet égard.
Il faudrait regarder du côté de la Scandinavie aussi. Non, ce que j'ai en tête, si vous voulez, et puis je sais que Philippe Contamine serait... je ne veux pas me prononcer à sa place. Je pense que le facteur dominant, c'est la construction de la carte politique européenne, hors de la dispersion féodale. Alors, la guerre, au sens conceptuel, éclate entre politiques, mais la guerre peut également servir à la définition des politiques les unes par rapport aux autres. C'est ce que j'entends par construction de la carte politique. Alors, ça ne peut être qu'infiniment complexe, mais on voit même se dessiner des lignes directrices, si vous voulez, qui aboutit, je dirais, l'aboutissement, parce qu'on a toujours besoin de dates, si vous voulez, c'est Westphalie, enfin, entre Westphalie et Utrecht. Est-ce qu'une vision de ce type vous paraît plaidable?
Merci. Ce que Jean Béchler disait sur le tournant du XVe siècle, je pense qu'on le retrouve la Bohême-Hongrie, effectivement, je crois qu'en Scandinavie aussi, mais je pensais surtout à l'union personnelle des royaumes de Lituanie et de Pologne. C'est tout ça, c'est la deuxième moitié du XVe siècle. L'émergence de... Alors, on est aux confins de... Je ne veux pas ouvrir le débat de savoir où se situe la Russie, si elle est en Europe ou en Asie, mais c'est aussi dans la deuxième moitié du XVe siècle que la Russie moscovite émerge. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de... la prise de Constantinople par Mehmed II en 1453, il y a une grande ottomanie qui naît à ce moment-là. Alors je sais bien, il y a une Turquie d'Europe. Il y a une Turquie d'Europe qui, depuis le XIVe siècle, est en marche, est en construction et qui va durer longtemps. Elle fait partie de la carte politique de l'Europe. Mais de toute manière, cette deuxième moitié du XVe siècle m'impressionne beaucoup parce que, je me permets de dire une bêtise, parce que ça n'a rien à voir avec la carte de l'Europe, mais hier, nous avons entendu, à propos de l'espace mexicain, même si le mot n'est pas employé à l'époque, ou de l'espace de l'Empire Inca, entre 1450 et 1500, ces deux empires multiplient par deux leur surface. Alors je sais bien, ils vont être détruits par les Espagnols, détruits ou intégrés, repris. Mais alors je ne connais absolument pas l'histoire de l'Asie, mais cette deuxième moitié du XVe siècle me semble effectivement un tournant décisif.
En Chine, oui. Enfin, il y a M. Hayek qui est japonologue, ou bien M. Van der Merch pour la Chine des Ming, enfin. Mais alors, bon, ce sont des rapprochements qui sont suggestifs et qui me font penser à Chonu, qui avait étudié les mouvements, économiques, marchands en Europe, et puis qui avait formulé l'hypothèse que ça devait être tout à fait différent du côté du Pacifique et qui a eu la surprise de constater qu'au contraire, c'était très parallèle. Alors, il peut y avoir des mouvements comment dire, à très grande échelle, mais M. Berset a demandé la parole.
Je voudrais poser une question donc aux deux auteurs. Est-ce que dans la caractérisation de guerre civile ou guerre dynastique ou guerre constructive, il ne faut pas tenir compte de la technique de la bataille, enfin des techniciens de la guerre, dans la mesure où j'ai l'impression que ces guerres du XVe siècle n'entraînent pas de très grands effectifs et sont l'effet de, non pas de professionnels, on sait bien que les armées professionnelles n'apparaissent qu'au XVIIe siècle, mais de gens qui sont proprement des techniciens, enfin des gens qui maîtrisent l'art des armes et qui sont des grands ou petits seigneurs. Et en Italie, par exemple, toutes les guerres, on dira, internes à la péninsule, sont menées par des professionnels, des condottieri, qui se mettent au service. Et ces condottieri sont souvent italiens, mais de n'importe quelle région de l'Italie que ce soit. Ils peuvent combattre du Napolitain jusqu'au Milanais. Ils peuvent souvent être anglais, allemands ou français au service des puissances italiennes. Donc il y a véritablement un métier de la guerre, et un métier de la guerre qui est assez théâtral et limité. La bataille d'Anghiari, qui est reproduite par Léonard de Vinci, devait avoir réuni 200 ou 300 personnes de part et d'autre. Et on a, pour la guerre, pour l'Italie, au cours du XVe siècle, un gros effort, notamment de la part des papes, dont l'autorité est beaucoup moins contestée depuis la fin du grand schisme et la reconstruction de Rome, l'effort d'apaiser l'ensemble des guerres entre les principautés. Le principal succès, c'est la paix de Lodi en 1454. Et ensuite, il y a les réactions des papes en face de la montée ottomane. Alors, j'ai beaucoup appris avec les spécialistes, les collègues ici, spécialistes de l'histoire de la Turquie, qui, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'expansion ottomane, enfin, qui paraît irrésistible, est en fait soumise à des périodes d'instabilité, de retraite, parce qu'ils ont à savoir s'ils doivent se développer plutôt vers la Mésopotamie ou résister à l'Iran. Ce qu'on peut dire, c'est que 1453, la chute de Byzance, a effectivement eu en Occident une importance qui n'est pas seulement la nouvelle d'une grande défaite, mais c'est la fin d'un millénaire. C'est compris comme ça à Rome. C'est la fin de... C'est une rupture de l'histoire du monde. Et le pape qui vient ensuite... Et né à Silvius Piccolomini, Pie II, organise tout de suite, lance une croisade en 1460, qui n'est pas chimérique, puisqu'il réunit toute la flotte vénitienne, et le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, envoie depuis Anvers une armada qui pénètre en Méditerranée, qui longe les côtes de l'Afrique du Nord. Ensuite, il se trouve qu'en août 1464, Pie II vient à mourir et tout est abandonné. Mais l'urgence a été ressentie, en tout cas par tous les gens qui étaient, je dirais, du sud-est de l'Europe, parce que dans la seule été 1463, l'avancée turque a pris les principautés de Macédoine, les montagnes d'Albanie, d'où a été chassé Skanderbeg, le royaume de Bosnie, d'où s'est échappé la reine Catherine II, qui s'est réfugiée à Rome, et le royaume de Serbie. C'est-à-dire que dès l'été 1463, s'est établie une frontière entre la Croatie et la Bosnie qui dure encore aujourd'hui.
De vos remarques qui m'intéresse beaucoup, je retiens une question dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de guerre civile lorsque les armées affrontées sont composées essentiellement de mercenaires apatrides. Il me semble que le propre de la guerre civile implique la confrontation de compatriotes. Et s'il n'y a pas de compatriotes, eh bien, c'est autre chose. On est en présence d'un autre phénomène. Et effectivement, il est possible que si la guerre civile est un concept malaisément employé pour l'Italie de cette époque, l'Italie avant Machiavel, si vous voulez, c'est que justement, il y a ce phénomène de la condotta. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Alors, en contraire, le propre des guerres civiles, telles que la pensée politique française les vit à partir de la fin du XIVe et au XVe siècle, cela implique effectivement, la confrontation de gens qui ont quelque chose de politiquement commun. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils font corps, pour ainsi dire. Il y avait la comparaison à l'époque du corps mystique, le corps mystique du royaume de France. Et donc des textes de l'époque nous disent, eh bien, c'est Christine de Pizan, c'est un petit peu une guerre civile, c'est un petit peu comme un corps humain, eh bien, le pied s'en prend aux yeux, la main s'en prend à la main, etc. Voilà, donc c'est c'est l'absurdité, la folie que peut représenter cette autodestruction, et la guerre civile est vécue comme une autodestruction. Alors, est-ce que la guerre civile est antinaturelle, elle est foncièrement antinaturelle, elle est contre toute loi de nature. Est-ce que ça signifie que les guerres civiles, c'est une autre question que je voudrais évoquer d'un mot, étaient plus dures, plus sanglantes, elles révoltaient davantage, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il n'y avait pas quand même, à l'intérieur des guerres civiles, de leur conduite, disons, une restriction, sans trop le dire, par rapport aux guerres étrangères qui étaient plus dures. Je suis frappé de voir que en Angleterre, à l'époque des guerres des Roses, il y a des batailles plus ou moins sanglantes. Il n'y a pas de très longs sièges. Hein, ça n'existe pas. Ce sont des chocs, frontaux, mais assez circonscrits. Et Philippe de Comines dit toujours, c'est beaucoup moins dévastateur que les guerres sur les continents, parce que finalement, ça se passe entre magna et magna. Et le reste de la population, finalement, continue à vivre sa vie ordinaire. Et je pense que lors des guerres entre Armagnac et Bourguignon, il y a eu quand même, par opposition aux guerres étrangères, une certaine limite. Et au moment de la guerre de biens publics, il n'y a pas ces dévastations autour de Paris, etc., qu'il y aurait eu si ça avait été une pure et simple invasion étrangère.
Je voulais juste compléter deux ou trois éléments. Je suis tout d'accord. Enfin, en Angleterre, c'est exactement la même chose. Alors, on utilise beaucoup l'image du corps, mais aussi beaucoup l'image du navire. Reste une île, donc il y a énormément de poèmes, de serments, etc., où on trouve cette image du navire qui peut être brisé par la destruction. En ce qui concerne les batailles aussi, il y a effectivement une restriction, sauf donc exception majeure comme la bataille de Taunton qui là a fait beaucoup beaucoup de morts. Les sièges, non. Londres par exemple, quand elle voyait qu'elle était assiégée, en général ouvrait ses portes. Bon, après elle était plutôt pro-yorkiste, donc en plus c'était plus simple, et justement les Lancastriens sous Marguerite d'Anjou se sont aussi décrédibilisés parce qu'ils ont commis des exactions, ce qui n'était pas le cas des yorkistes. Et donc il y avait vraiment, c'est aussi comme ça qu'ils ont perdu des points, si on peut dire. Donc il y a effectivement, je pense, cette dimension de quand même de retenue entre guillemets qui est présente. Alors qu'ils n'hésitent pas, en revanche, contrairement à ce qu'on a dit, parfois. Ne pas faire de quartier lors des batailles françaises, etc.
Oui, je vais vous donner la parole. Justement, non, mais parce que ce point est très important. Enfin, Est-ce que ce n'est pas l'indice de l'absence d'idéologisation des conflits politiques dont vous parlez, parce qu'au XXe siècle, les guerres civiles sont effroyables, enfin, mais parce qu'elles sont idéologisées, non ? Je ne sais pas.
Je pense qu'elles ont une dimension politique, mais qu'après, effectivement, enfin, le terme d'idéologie, il y a aussi, ils vivent quand même vraiment dans le même monde et dans la chrétienté, donc il y a aussi cette dimension-là. Donc, je pense que enfin, on ne peut pas parler d'idéologie au sens du 19e ou du 20e siècle, c'est autre chose. Mais ça n'empêche pas la dimension politique.
Même au 20e siècle, les guerres civiles sont effroyables, mais surtout, elles sont considérées comme spécialement scandaleuses, indépendamment même du résultat. Souvent, on compare la Première Guerre mondiale, en tout cas, à une sorte de grande guerre civile européenne, d'ailleurs.
Monsieur Dabila, et puis ensuite,
vous aussi. Oui, mais c'est pour rebondir sur la remarque de M. Béchler sur l'importance de la fin du 15e siècle, la deuxième moitié. Donc, il a été fait référence à la date de 1453, la fin de Byzance, donc, mais qui en fait est un peu anecdotique parce que la fin de l'Empire byzantin, il n'y a plus que la ville au moment de la prise de Byzance, et l'Empire s'est déjà vidé de ses juristes, de ses intellectuels, de ses connaisseurs de la tradition juridique romaine et impériale notamment, et Venise s'est emparée d'une très large partie des débris de l'Empire et a rapatrié énormément de juristes, de textes qui se sont intégrés à la tradition universitaire européenne, donc il y a déjà toute une nouvelle génération d'hommes qui connaissent beaucoup mieux le droit romain, le code justinien et qui ont permis de concevoir les nouvelles structures de l'État et qui ont irrigué l'Europe de nouvelles conceptions politiques, sûrement. Enfin, je pense aux travaux de Dimitri Goutas et de Guggenheim, qui étaient venus ici déjà dans un colloque. Donc, en arrière-fond de tout le 15e siècle, en fait, il y a ces nouvelles conceptions politiques plus unitaires, plus étatiques, où la fin de la féodalité et en fait intellectuel avant d'être dans les actes. Est-ce qu'on peut trouver des traces de cet affrontement dans les guerres civiles constructives qui a abouti à la formation d'un État en bonne et due forme en Castille, en France, en Angleterre, mais qui a aussi entraîné la désagrégation de l'Allemagne, peut-être parce que les gens se réclamant d'un nouveau droit, d'une nouvelle conception du droit et de la bureaucratie ont peut-être échoué, je ne sais pas, c'est une hypothèse là, mais pour replacer la discussion dans un mouvement intellectuel de fond, c'est-à-dire la fin de l'Empire byzantin et le rapatriement de traditions juridiques romaines. Voilà, nouvelle.
En fait, en France, en Angleterre et en Castille, il y a déjà un État qui est très solide, donc on ne peut pas dire que les guerres ont permis la mise en place d'un État, puisqu'il y en a déjà un, en particulier en Angleterre. Le Royaume de France a déjà des fondements par rapport au droit romain très importants, les Anglais moins, parce qu'ils ont développé un système un petit peu différent, même s'ils ont des très bons juristes. Donc le droit romain, notamment, a quand même été très fortement redécouvert au XIIe siècle, commenté, etc., dans les premières universités. Donc là-dessus, l'apport, je pense, n'est pas tout à fait de la même nature. L'apport des juristes, ça va plus être lié à l'humanisme de manière générale et à des conceptions qui peuvent aussi être par rapport aux conceptions de Machiavel, etc. Mais la notion d'État, elle est déjà très fortement présente depuis au moins le XIIIe siècle. Et on pense parfaitement la construction de l'État.
Je voudrais ajouter simplement que, effectivement, il y a les évolutions intellectuelles, et vous avez tout à fait raison. Il me semble que dans le cas de la construction de la France, la construction politique de la France, effectivement, c'est une banalité que je vais dire, mais il faut le rappeler quelquefois, les banalités, il y a cette double expérience de la guerre étrangère et de la guerre civile, l'une l'autre s'épaulant, précisément à l'époque de Jeanne d'Arc, nous sommes à une confluence, la guerre menée par le Charles VII, c'est à la fois une guerre civile et une guerre étrangère, et donc massivement, je pense que les Français, et notamment l'opinion publique France urbaine, a été très sensible à cette idée qu'il faut rétablir l'ordre et par conséquent, il faut un État fort. Il faut un État fort, ce qui implique impôts, le consentement à l'impôt, ce qui implique une armée permanente, bien tenue en main par le pouvoir. Et on aboutit, après le temps des divisions, à la formule qui apparaît, je crois, au début du XVIe siècle, un Dieu, une foi, une loi, un roi. Donc ça, c'est, je crois, l'expérience, le souvenir que les Français, en tout cas, ont gardé de ces temps calamiteux où il y avait à la fois les épidémies, les mortalités, les désordres climatiques et la guerre, et il s'agissait d'échapper à ce cauchemar et donc d'accepter un pouvoir politique, un pouvoir royal fort.
Monsieur Picard.
J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit, la citation que vous nous avez faite de Christine de Pizan sur le rapport entre guerre civile et les combats entre les parties du corps, parce que Platon avait déjà utilisé la comparaison pour ce qu'on appelle la guerre civile, la stasis. Entre, alors lui c'était moins les parties du corps que la psychologie, entre les combats psychologiques que l'homme pouvait mener contre lui-même. Et il voyait dans la guerre civile l'équivalent de ces luttes du cerveau, et dans ces combats psychologiques l'équivalent d'une guerre civile.
Merci. Moi aussi, je trouvais très, très intéressant, très utile les précisions terminologiques qui ont été apportées par M. Contamine pour définir la guerre civile par opposition à un ennemi de l'extérieur. Et parmi ces définitions, celle de guerre fratricide me paraît particulièrement intéressante parce que, et non pas les neveux, et les oncles ou les pères et les fils ou les grands-pères et les petits-fils, parce que probablement parce que les frères expriment au niveau le maximum degré au niveau de la consanguinité, le maximum de rapprochement au niveau de la consanguinité. Et la guerre civile met probablement en crise, à mal, un principe identitaire de nos sociétés qui est l'appartenance par le sang. Justement, l'évocation du corps mystique va dans le même sens, dans la même direction. C'est que n'est pas le cas, par exemple, pour certaines sociétés amérindiennes, celles que je connais le mieux, sur laquelle j'ai travaillé, les Ayorés, où la guerre se fait souvent entre sous-groupes de la même ethnie, Gaiga Osode, Gidaigo Osode, par exemple, Totobiego Osode, mais ce n'est pas le sang qui fixe le principe identitaire, bien si mais l'appartenance au même clan. Et alors, ce qui est intéressant sur les manipulations symboliques qui précèdent la guerre pour effacer cette appartenance au même clan et pouvoir faire la guerre contre les mêmes, alors que lorsqu'on passe de la guerre à l'alliance, ce qui est très fréquent chez ces peuples, lorsqu'on passe de la guerre à l'alliance, on rétablit le mode de fonctionnement qui passe pour l'appartenance clanique.
Du basculement entre l'expansion balkanique européenne et l'expansion mésopotamienne et asiatique, parce que c'est important, je crois, pour à plus grande échelle, mais enfin bon, on peut pas tout dire et tout aborder. Bon, je vous propose, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure de battements.